Bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison spéciale de Au cœur du chaos. Après l'opéra, après le Tao, après le décryptage, il reste une question. Non pas quelle est la méthode ou que faut-il appliquer maintenant, mais plutôt qu'est-ce que cette traversée change dans notre manière d'écouter une organisation qui dit vouloir changer, mais qui continue à se protéger. Le Tao de la connerie ordinaire nous a montré une mécanique, visible, presque théâtrale, parfois drôle, parfois gênante. Le chef veut tenir, le système cherche une cause, la méthode devient sacrée, les mots rassurent, la compréhension apaise, et peu à peu, ce qui devait transformer finit par stabiliser. Mais murmure d'organisation écoute autre chose. Murmure n'écoute pas seulement ce qui se voit. Il écoute ce qui se défend dessous. Une croyance limitante n'est pas seulement une erreur de pensée. Ce n'est pas seulement une phrase fausse qu'il faudrait remplacer par une phrase juste. Une croyance limitante peut être une protection. Elle protège une cohérence, une place, un poste, une dignité, une relation, un sentiment de sécurité, une manière ancienne de tenir debout. C'est pour cela qu'on ne la traite pas en la dénonçant. Dire à quelqu'un « ta croyance est limitante », c'est souvent la meilleure approche pour la justifier et la renforcer. Dans Murmure, plusieurs approches permettent d'écouter autrement. L'approche de Palo Alto, d'abord, invite, entre autres, à regarder ce qui se passe dans les façons de faire en plus de ce qui se passe dans la tête des gens. Elle demande « qu'est-ce que nous faisons ensemble qui maintient le problème ?» Quelles tentatives de solutions produisent encore plus de blocages ? Qu'est-ce que nous répétons d'inefficace avec les meilleures intentions ? Cela déplace déjà le regard. On cesse de chercher seulement qui pense mal. On regarde comment le système fabrique, entretient ou protège ce qu'il dit vouloir résoudre. Murmure mobilise aussi ce que Robert Diltz appelle les niveaux logiques. Une même phrase ne vit pas toujours au même étage. On n'a pas le temps, peut parler d'agenda, mais elle peut aussi parler de comportement, de compétences, de valeurs, de rôle, de sens. Si l'on répond au mauvais niveau, on peut avoir techniquement raison et échouer humainement. Ajouter du temps ne résout pas toujours une peur de ne pas être légitime. Clarifier une procédure ne résout pas toujours une menace ressentie sur le poste. Donner une méthode ne résout pas toujours une perte de sens. Les niveaux ne servent pas à classer les gens, ils servent à ne pas répondre trop vite. Il y a aussi la question du contexte, avec l'approche du Kinefin de Dave Snowden. Toutes les situations ne demandent pas le même type de réponse. Dans un contexte simple, on applique la bonne pratique. Dans un contexte compliqué, on doit analyser avec de l'expertise avant d'agir. Dans un contexte complexe, il faut tester, observer, apprendre et recommencer. Dans un contexte chaotique, il faut d'abord agir pour créer un minimum de prise avant de pouvoir bouger. Beaucoup de croyances se renforcent parce qu'on applique au mauvais contexte une réponse qui a marché ailleurs. On exige de la prévision, là où il faudrait expérimenter. On demande de l'alignement, là où il faudrait clarifier le conflit. On cherche une cause unique, là où il faudrait regarder les tentatives répétées de solutions inefficaces. Et lorsque cela échoue, on conclut que les personnes résistent, alors qu'elles sont peut-être simplement prises dans une réponse inadaptée au type de réel qu'elles traversent. Murmure travaille enfin le questionnement des croyances, notamment avec l'approche pragmatique de Byron Katie. Non pour humilier la croyance, non pour la remplacer par un slogan positif, mais pour l'approcher. Est-ce toujours vrai ? Dans quelle situation est-ce vrai ? Que protège cette croyance? Que permet-elle d'éviter? Que coûterait le fait de ne plus y croire? Quel petit déplacement deviendrait possible si elle se desserrait légèrement? Le mot important est peut-être celui-là, légèrement. Une croyance collective ne se retourne pas comme une veste. Elle se desserre, elle se déplace, elle respire, elle perd un peu de son évidence. Et parfois, cela suffit pour qu'un pas devienne possible. C'est ici que les cinq processus de « au cœur du chaos » retrouvent leur juste place. Ils ne sont pas la solution aux croyances limitantes. Ils ne remplacent ni l'écoute authentique, ni le travail sur les rôles, ni les niveaux, ni la lecture du contexte, ni le questionnement des croyances. Ils sont autre chose. Ils sont des moyens de coopération, des formes de travail qui rendent le collectif un peu moins vulnérable aux croyances individuelles et partagées. Définir le problème ensemble, ce n'est pas guérir une croyance. C'est éviter qu'une seule lecture du problème s'impose sans être interrogée. Travailler un pitch, ce n'est pas résoudre une protection. C'est obliger à dire clairement ce que l'on cherche, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et ce que l'on demande. Co-créer, ce n'est pas supprimer les croyances. C'est faire entrer plusieurs regards dans le même espace pour que le réel ne soit pas capturé par un seul récit. Le feedback structuré, par le CODEV, ne dissout pas les peurs. Il permet de les mettre au travail, sans les transformer immédiatement en accusations ou en obstructions. Et le processus de décision, enfin, ne fait pas disparaître les protections. Mais l'autonomie du décideur, la capacité à entendre les réactions sans contrainte, la coopération sur la prise en compte des risques révélés par les objections conduit à une décision claire, bénéficiant de l'intelligence collective et qui empêche parfois, voire souvent, les croyances de continuer à gouverner dans l'ombre. Voilà le rôle de ces cinq processus. Ils ne guérissent pas, ils organisent une coopération plus robuste. Ils ne remplacent pas murmures, ils offrent des lieux où ce que murmure révèle peut être travaillé avec d'autres. Revenir vers le réel, ce n'est donc pas appliquer une méthode supplémentaire. C'est être conscient et accepter le réel. En général, on préfère voir ce qu'on croit plutôt que croire ce qu'on voit. Il s'agit alors de conjuguer trois gestes. Voir la mécanique visible, écouter la protection dessous, créer les conditions d'un petit déplacement réel. Le Tao nous aide à voir, murmure nous aide à écouter, les processus aident à coopérer. Mais aucun des trois ne doit devenir un refuge. On peut se réfugier dans la satire. On peut se réfugier dans la compréhension. On peut se réfugier dans la méthode. Et chaque fois, le réel attend. Ce qui ne veut pas dire qu'il nous attend immobile. Non, il bouge, il change en permanence. C'est nous qui sommes immobiles. Il nous attend dans le fait qu'il attend de nous d'accepter de lui poser, par nos actions, des questions et surtout d'accepter ses réponses, plutôt que de les juger à l'aune de nos croyances. Alors si cette saison devait laisser une question, ce serait peut-être celle-ci. Dans la transformation que nous vivons, qu'est-ce qui se protège sous ce qui bloque? Et juste après, quel espace de coopération pouvons-nous créer pour que cette protection n'ait plus besoin de gouverner seule? Pas un grand plan, pas une grande conversion, pas une promesse de changement total. Un lieu, une conversation, une décision, un test, un pas. Le Tao nous a montré la mécanique. Murmure nous a fait entendre ce qui se protège dessous. Maintenant, il reste le réel. Et le réel ne demande pas toujours qu'on le comprenne davantage. Parfois, il demande simplement qu'on lui laisse une chance de bouger avec nous. Merci d'avoir traversé cette saison spéciale de Au cœur du chaos. Merci d'avoir écouté l'opéra. Merci d'avoir suivi le chef, les reines, les bougres, le skippy, la machine et le Tao. Et peut-être maintenant, lorsque dans une organisation tout semblera à sa place, vous entendrez malgré tout une petite question. Très simple, très discrète. Qu'est-ce que protège cette immobilité? Et quelle part réelle pouvons-nous porter ensemble? À bientôt, dans Au cœur du chaos.